bonjour et bienvenue à ce premier podcast du site boardgamequebec.com. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe.
Et Marie-Lou.
Boardgamequebec.com est un site, un blog, où on a fait des articles et on a aussi présenté quelques vidéos. Si vous nous suivez depuis le début, c'est ce que vous avez pu remarquer pour l'instant. Mais ce que je trouvais, c'est que je ne pouvais pas parler assez de jeux que je joue à chaque semaine et je trouvais que le podcast était un médium vraiment intéressant. Je suis aussi un amateur de radio parlée et le podcast, en fait, c'est de la radio sur demande et avec le sujet que vous décidez d'écouter. Donc, c'est vraiment ce qui m'intéressait à faire un podcast sur les jeux de société. Et de plus, il n'y en a pas présentement de francophones québécois sur les jeux de société. Donc, pour ce premier épisode, on va commencer par se présenter, moi et Marie-Lou, pour que vous connaissiez un peu... C'est comment on est entré dans le hobby du jeu de société et quel jeu qu'on aime. Donc, pour commencer, on va, dans le fond, faire une présentation sous forme de questions un peu, dont la première question, c'est le jeu, les jeux que l'on jouait dans notre enfance au coup de cœur. Donc, je vais te laisser commencer.
Okay. Moi, avec ma famille, quand j'étais jeune, on jouait à plusieurs jeux. Un que je me souviens très bien là, quand j'étais assez jeune, c'était un jeu qui s'appelait Hamburger. Dans le fond, c'était un jeu avec des tuiles, avec des images d'ingrédients dessus pour faire un hamburger. Puis, il fallait trouver les deux pareils. Là. C'était un petit peu un jeu de mémoire. Et aussi, il y avait un plateau où on se déplaçait, puis on pouvait aller chercher les ingrédients. Il fallait se rappeler où est-ce qu'ils étaient pour pouvoir aller les chercher. Puis une fois qu'on avait tous les ingrédients pour faire le hamburger, on pouvait gagner la partie. J'aimais vraiment ça, ce jeu-là. Puis je me souviens d'avoir joué en famille avec aussi ma grand-mère, puis tout ça. Un autre jeu aussi que j'ai beaucoup aimé quand j'étais un petit peu plus vieille, ça s'appelait Gangster. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a deux éditions de ce jeu-là. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était la première édition. Mais maintenant, il y en a une autre qui s'appelle Gangster 2, le Pro. Puis, dans le fond, c'est un jeu où on est dans la mafia, puis il y a un quartier avec un parrain qui contrôle le quartier. Puis, notre but, c'est de prendre contrôle du quartier. Donc là, on a plusieurs moyens pour faire de l'argent. Dans le fond, pour prendre contrôle du quartier, il faut l'acheter du parrain. Donc, il faut ramasser assez d'argent pour pouvoir acheter le quartier. On peut faire des vols de banque, on peut faire du commerce de perles et de diamants, on peut faire des missions, il y a plein de choses qu'on peut faire pour ramasser de l'argent. Puis c'est ça, quand j'étais adolescente, j'aimais beaucoup ce jeu-là, on jouait en famille. Puis quand j'ai rencontré Jean-Philippe, ça fait quand même un certain nombre d'années, on a joué beaucoup à ce jeu-là aussi. Donc c'est pas mal ça, mes deux coups de cœur.
D'accord. Puis, d'ailleurs, si vous voulez, sur notre site boardgamequebec.com, on a fait, mais Mario a fait justement une évaluation de ce jeu il y a quelques mois. Pour ma part, plusieurs petits jeux, jeux assez classiques que je jouais dans mon enfance, comme Jour de paye, Monopoly un peu, mais plus ou moins. Risk, c'est quand même un jeu que mon frère aimait jouer, ma famille, mes parents, c'était une partie très agréable de Risk. Aussi quelques autres jeux que j'ai des vagues souvenirs comme Jurassic Park Game que j'ai retrouvé sur Board Game Geek et qui n'avait pas une très bonne cote, mais c'est j'avais une petite mémoire une mémoire des petites figurines de dinosaures qui ont marqué mon enfance. Et aussi un jeu sur Batman, le jeu Batman Returns 3D Board Game, qui était un plateau en 3D où on se déplaçait par des bouches d'égout. C'est des jeux qui avaient vraiment marqué mon enfance. Je crois que j'avais joué avec peut-être des gardiens là, qui avaient amené ces jeux-là. Il y a aussi quelques jeux qui provenaient de que ma mère avait acheté. Donc, il y avait Paris Manie, c'est un jeu qui existe encore. Tous des jeux qui existent encore. Aussi, on jouait au Scrabble en famille aussi. Ace Category. Cette catégorie, c'était un jeu que mes amis avait, qu'on jouait quand même assez régulièrement, que j'appréciais bien jouer. Donc, on va enchaîner avec la prochaine question. Comment on a découvert les jeux de société moderne? Qu'est-ce que je veux dire par jeu de société moderne? Je veux dire, dans le fond, tous les autres jeux à part les grands classiques comme Monopoly, Clou, Scrabble, etc.
Souvent, quand on parle de jeux de société, les gens pensent qu'on joue à ces jeux-là, mais non, il y a
Ouais.
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres types de jeux de société pas mal plus intéressants. Donc, c'est ça, on va vous parler de comment on a découvert tous ces jeux-là.
Dans le fond, le premier achat qu'on a fait, c'est Mr. Jack, qui est un jeu pour deux joueurs seulement ou thématique de Jack l'Éventreur, qu'il faut, dans le fond, un joueur incarne les inspecteurs qui tentent de découvrir Jack l'Éventreur. En gros, c'est un peu ça le jeu. Et on l'avait acheté dans une boutique de jeux où on habitait en région à l'époque. Et un autre jeu qu'on a acheté quelques années plus tard, Les Pieds d'Atar. Et moi, dans le fond, on avait acheté ce jeu-là parce que j'étais fan du livre Les Pieds d'Atar et de l'auteur Ken Follett. Et ça, c'est un typique jeu moderne, dans le fond, un Eurogame, c'est un jeu de placement de travailleurs très intéressant et très bien classé sur Board Game Geek.
Ouais, le premier jeu de placement d'ouvriers qu'on a acheté dans le
Ouais,
fond.
effectivement.
Puis après ça, on a découvert beaucoup d'autres jeux quand on a déménagé ici à Québec. Là, avant, on restait en région. Puis quand on est arrivé à Québec, on s'est rendu compte que la boutique L'Imaginaire, ici à Place Laurier, il y avait une très, très grande sélection de jeux. Quand on a vu ça, on était vraiment impressionnés. Puis on savait pas trop par où commencer. Donc là, on a découvert un site web que Jean-Philippe a parlé. C'est le site boardgamegeek.com. C'est un site où presque tous les jeux de société qui existent, dans le fond, sont répertoriés. Puis les joueurs peuvent les évaluer. Il y a des classements dans différentes catégories. Donc ça nous a aidé à trouver des jeux de société qu'on pourrait aimer. Puis, dans le fond, nos premiers achats à l'imaginaire, ça a été le jeu Mansions of Madness. C'est un jeu d'horreur et d'exploration où un joueur joue un petit peu le maître du jeu, le maître du manoir. Il y a des monstres qui apparaissent, il y a des pièces à explorer. Puis le but, c'est de résoudre l'énigme un petit peu du scénario qu'on est en train de jouer. Ça, c'était notre premier achat. Ensuite, on a acheté aussi le jeu Rune Wars. Ça, c'est un jeu plus de batailles avec des armées puis différentes races. Puis dans le fond, le but, c'est d'avoir sur son territoire des runes. Donc, il faut avoir beaucoup de stratégie là pour avoir les runes aux bons endroits sur notre territoire. Puis un autre jeu qu'on a acheté, ça s'appelle Merchants and Marauders. C'est un jeu de pirates, dans le fond. Donc, ça a été nos trois premiers achats. Puis, suite à ça, on a découvert aussi des chaînes YouTube, des podcasts et des blogs. Donc, grâce à toutes ces ressources-là, on a réussi à découvrir beaucoup, beaucoup de jeux, là, qui nous intéressaient.
Aussi, on a découvert le concept des pubs ludiques avec la revanche ici à Québec. Dès qu'on a découvert ça, on a très apprécié. On est allé plusieurs fois consécutives au début. C'est vraiment intéressant comme concept, dans le fond, si vous ne connaissez pas ça. Dans le fond, c'est un pub où il y a un grand inventaire de jeux de société avec des animateurs qui peuvent expliquer les jeux. Et il y a aussi certains pubs, on peut boire de l'alcool et manger aussi. Donc ça peut mener à des soirées très intéressantes de jeux de société en groupe ou à deux personnes selon votre choix, selon votre préférence. Et justement, en ce moment, c'est en train d'éclore un peu partout au Québec. Il y en a un qui va ouvrir très prochainement à Drummondville, le Joker Pub Ludique, si je me souviens bien. Et il y en a un aussi à Sherbrooke. Donc ça commence à aller à l'extérieur des grands centres comme Montréal et Québec. Et donc depuis à peu près un peu plus qu'un an, on joue beaucoup plus de jeux de société, soit en groupe ou nous deux ensemble.
Ouais, c'est ça. On participe aussi à des groupes de jeux où on peut découvrir des jeux. Puis on est allé à certains événements de jeux de société. Là, on va parler d'un événement qu'on est allé récemment tantôt, là, mais il y en a quand même périodiquement là à Québec ou Montréal ou ailleurs. Puis on essaye d'y aller.
Donc, on va passer à la prochaine question qui est nos types de jeux préférés. Donc, pour ma part, je vais un peu classer sous différentes catégories. Quand je parle des jeux, quelle thématique que j'aime bien, j'aime les thématiques de guerre comme Twilight Struggle, qui est sur la guerre froide, Axis and Allies, qui est vraiment un jeu de plateau représentant les guerres mondiales souvent, et d'autres jeux. C'est des jeux qui sont assez lourds, qui durent assez longtemps, ces deux jeux-là. Il y a aussi dans les thématiques de guerre un peu plus courts, il y a les poilus, D&D Dice qu'on vient d'acheter, qu'on va parler un peu tantôt. J'aime aussi les thématiques de civilisation, comme Two Ages, Clash of Culture, Seven Wonders Duel, donc tout ce qu'il faut, il faut développer une civilisation. Je trouve ça bien intéressant. Et les jeux aussi d'aventure comme Mage Knight, Rune Wars, ce que Marie-Lou vient de parler, Merchant and Marauder, qui est un peu aventure aussi, mais pirate aussi en même temps. J'aime aussi, dans les mécaniques de jeu que j'aime bien, de développement de civilisation, comme je viens de parler, placement de travailleurs, je trouve ça assez intéressant comme type de jeu, même si ça peut mener des fois à... Marie-Lou aime un peu moins ce type de jeu-là, parce que des fois, ça peut mener à de longues réflexions pour un joueur et à des temps de jeu un peu plus longs. Avec beaucoup de temps d'attente entre chacun de nos tours. Mais moi, j'aime bien ce type de jeu-là que je joue des fois plus régulièrement avec un groupe où Marie-Lou vient jouer de temps en temps. Des jeux qu'on a comme ça, dans le fond, de placement de travailleurs, Fields of Ard et Les Pieds de la Terre qu'on a parlé tantôt, qui est un de nos premiers achats. Et aussi, j'aime bien les jeux de placement de dés comme Castles of Burgundy. Dans le fond, c'est comme un placement de travailleur, mais avec des dés et la valeur du dé qu'on a lancé nous permet de faire certaines actions. Donc, ça limite un peu les actions. Ça rend les jeux un peu moins longs et moins de possibilités, mais tout en restant, en gardant la thématique du placement de travailleur assez intéressante. Puis, j'aime bien aussi ça, les jeux de stratégie avec un peu de chance, modération de chance, pas trop de chance, habituellement. Et puis, comme je mentionnais, les jeux lourds, les heavy games, qui durent 2, 3, 4 heures, ça, j'aime bien ça m'embarquer dans un jeu pour une bonne soirée.
De mon côté, je dirais que la chose la plus importante pour moi, c'est la thématique. J'aime beaucoup les jeux avec des thématiques fortes. J'aime aussi quand les mécanismes du jeu marchent bien avec le thème, quand il y a un sens à tout ce qu'on fait. Je trouve que ça rend le jeu beaucoup plus immersif. On sait pourquoi on fait telle chose. Puis, je trouve ça très intéressant. C'est ça qui m'accroche le plus. Des exemples de jeux que j'aime, il y a le jeu Pathfinder Adventure Card Game. Excusez, on dit toujours les noms de jeux en anglais, mais c'est parce qu'on joue souvent à la version anglaise des jeux, puis on est habitué de lire des choses en anglais ou d'écouter des choses en anglais sur ces jeux-là, mais c'est pour ça, là. Mais dans le fond, ça, c'est un jeu de rôle, un petit peu, là. Chaque personne a un personnage, puis il faut explorer des endroits, essayer de trouver les méchants, puis les combattre. Ensuite, d'autres jeux que j'aime, ben le jeu Merchants and Marauders, dont j'ai parlé tantôt, le jeu de pirates, j'aime bien ça. Ensuite, j'aime aussi les jeux d'aventure et d'exploration, comme Jean-Philippe a mentionné. J'aime les jeux de civilisation aussi. J'aime beaucoup les jeux de déduction aussi. On en a quelques-uns. On a le jeu Alchimiste. C'est un jeu de déduction. Faut trouver des ingrédients là, pour faire des potions. Ça, c'est très intéressant. Puis il y a un jeu aussi qu'on a joué récemment. On va en parler tantôt, mais ça s'appelle Sherlock Holmes Consulting Detective. Puis ça, j'ai beaucoup aimé ça, là. Faut, dans le fond, on aide Sherlock Holmes à résoudre des mystères. Donc, c'est ça pour moi, là.
D'accord. Dans le fond, si vous voulez avoir un aperçu de notre collection, je vous invite à visiter notre site boardgamequebec.com. Dans la section de nos jeux, on a un grand éventail de jeux. On est assez des joueurs assez variés, sauf peut-être pour les jeux thématiques espace ou Star Wars, ou si on est moins dans ce type de jeu-là. C'est peut-être le type de jeu qu'on est moins. Une autre question. La chose qui nous tape sur les nerfs dans les jeux, j'en ai mentionné un peu tantôt pour Mario qui va vous en parler tantôt. Dans le fond, moi, ce que j'aime pas, c'est quand il y a un grand déséquilibre entre les joueurs, que c'est très difficile de revenir de l'arrière. Ça, c'est un type de choses que j'aime moins, qu'à mi-parcours, on sait déjà qu'on a perdu. Ça peut venir le jeu un peu long. Et j'aime pas ça quand c'est des jeux 100% chance. Quoique il y ait quelques exceptions comme le jeu Can't Stop que j'apprécie bien à jouer sur la version en ligne sur Board Game Arena, qui est un site où on peut jouer à divers jeux de plateau qui ont été programmés pour jouer en ligne.
Bon, moi, la chose qui me tanne le plus dans un jeu, c'est comme Jean-Philippe l'a mentionné tantôt, quand les tours sont interminables, quand surtout nous, on joue souvent à deux joueurs. Donc là, si l'autre joueur prend vraiment beaucoup de temps à réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire dans son tour, c'est un petit peu plate pour l'autre personne qui joue avec lui. En tout cas, moi, j'aime pas ça attendre longtemps. J'aime ça quand c'est facile de prendre les décisions de qu'est-ce qu'on va faire au prochain tour. Puis aussi quand il faut porter attention à qu'est-ce que l'autre fait. Parce que des fois, il y a des jeux où il y a moins d'interactions, là, qu'on est concentré chacun sur sa stratégie. Puis qu'on porte pas attention à ce que l'autre fait. Je trouve qu'on pourrait jouer chacun de notre bord, puis que ça serait la même chose. Donc, c'est ça. J'aime ça quand il y a de l'interaction, puis quand ça va vite. Puis moi, j'aime plus les jeux où il y a un petit peu de chance, là. Jean-Philippe, il aime moins ça. Mais moi, j'aime ça, la chance, parce que sinon, je trouve que c'est plate, là, dans le fond. De partie en partie, ça revient un petit peu au même, là, quand il n'y a aucune chance. Puis des fois aussi, ces jeux-là, comme les jeux de placement d'ouvriers, des fois, on peut avoir deux jeux avec des thèmes différents, mais au final, le feeling du jeu est pareil parce que le thème est pas assez implémenté dans le jeu, tu sais, on met un ouvrier là, mais on sait pas trop comment ça fit dans le thème là. Donc c'est ça, là. Moi, j'aime ça quand on a vraiment le feeling de jouer au jeu, là.
D'accord. Pour, dans le fond, d'autres questions, on avait une dernière question, la fréquence à laquelle on joue des jeux. Pour ma part, j'aime ça jouer au moins minimum 2 fois par semaine. Quand je parle de jouer, dans le fond, ça peut être une soirée de jeu avec plusieurs jeux. Pas seulement jouer 2 jeux par semaine, mais plusieurs jeux, mais 2 fois. Et idéalement, j'aimerais ça jouer 3 à 4 fois par semaine pour avoir encore plus de jeux à vous parler.
Moi, c'est plus variable, là. On joue pas mal à toutes les fins de semaine ensemble ou avec d'autres gens. Puis comme Jean-Philippe l'a mentionné tantôt, des fois je me joins là au groupe de jeux de société, mais pas à toutes les semaines, parce que les soirs de semaine, je trouve ça un petit peu plus compliqué. Mais sinon, moi aussi, là, plusieurs fois par semaine, j'aime bien ça.
Le jeu que l'on jouerait à tous les jours. Moi, je l'ai classé dans 3 catégories. Dans le fond, dans les heavy games, dans les jeux plus lourds, durer 2, 3, 4 heures. J'ai True The Ages, mais là, j'hésite aussi avec Twilight Struggle, que j'aime bien aussi, mais Twilight Struggle, qu'on va parler un peu plus tard, c'est un jeu que tu gagnes de l'expérience un peu en jouant, de l'expérience personnelle pour jouer de meilleures parties à chaque fois. C'est deux jeux un peu différents, mais que j'aime bien dans les heavy games, que je jouerais vraiment tous les jours. Et dans les light mediums, c'est-à-dire un peu moyen, 1 heure à 2 heures de Castle of Burgundy, comme je parlais, c'est un jeu de placement de dés que j'apprécie vraiment. Même, il y a un peu de part de chance dans ce jeu-là, mais pas énormément, même s'il y a des dés. Et le jeu à 2 joueurs que j'aurais tout le temps, c'est vraiment Seven Wonders Duel, qui est un jeu tout simplement parfait pour 2 joueurs en couple.
Moi aussi, mon jeu auquel je jouerai à tous les jours, c'est Seven Wonders Duel. Justement parce que moi, je jouerai pas à tous les jours à un jeu de 3-4 heures, là. Je trouve que c'est un petit peu trop long. J'aime ça une fois de temps en temps, mais pas tous les jours. Donc, c'est ça, Seven Wonders Duel, c'est basé sur le jeu Seven Wonders, là, qui est fait pour jouer à plus de joueurs, dans le fond. Puis c'est un jeu où on ramasse des cartes. Puis ensuite, on peut jouer nos cartes, là. Puis dans le fond, c'est une thématique, là, un petit peu de civilisation, là. Donc, dans le duel, dans le fond, il y a des cartes au centre de la table. On peut les ramasser, on peut les jouer. Ça nous permet d'avoir des ressources pour construire des merveilles. Dans le fond, il y a un joueur qui joue les Romains, puis un autre joueur qui joue les Égyptiens avec Cléopâtre. Donc, en tout cas, moi, je prends toujours le côté des Égyptiens, mais... C'est ça, là, dans le fond, ce jeu-là, les parties durent environ entre 30 et 45 minutes maximum, là.
Maximum.
Je pourrais vraiment jouer à tous les jours à ce jeu-là, puis je pense que je me tannerais pas. Il y a de la variété dans les stratégies qu'on peut faire. Il y a plusieurs façons de gagner. Donc, je le trouve vraiment intéressant, puis les composantes sont belles. Comme Jean-Philippe disait, c'est un jeu parfait.
Vraiment très bon jeu. Donc, on va passer à une prochaine section du podcast qui va être récurrente à chaque épisode du podcast. C'est-à-dire qu'on va parler des jeux qu'on a joués au cours des dernières semaines. Vu que là, c'est le premier épisode, ben on a sélectionné quand même des jeux qu'on a joués récemment. Il y en a que ça fait un peu plus longtemps que ça fait peut-être un mois ou deux, mais qu'on voulait quand même vous parler pour ce premier épisode. Donc, on va commencer avec le jeu César et Cléopâtre qu'on a joué à la revanche il y a peut-être environ 2 mois, si je me souviens bien. C'est un jeu pour 2 joueurs sorti en 1997. Ce qui nous a quand même surpris, puisque la boîte était. Ça semblait d'un jeu fraîchement sorti, peut-être un nouveau
Une belle
impression, en
acquisition
tout
de la revanche, peut-être
cas. Ouais, peut-être
aussi, là.
aussi,
Il avait
ouais.
vraiment l'air neuf.
Ouais. Il n'est pas très joué, mais on a très bien apprécié. C'est un jeu créé par Wolfgang Luthke, désolé pour la prononciation, et publié par Philosophia, dont le but du jeu, c'est d'influencer les citoyens romains dans son camp pour faire le plus de points
Ouais.
possible.
Puis encore une fois, c'est César contre Cléopâtre.
Encore une fois, effectivement, un peu comme Seven Wonders Duel. Et donc, ça, juste comme je disais, on a joué à la revanche, très apprécié. Le jeu, ce que j'ai bien aimé, c'est la forme des cartes qui permettait de jouer dans une zone assez restreinte, des cartes plus faites sur le long en rectangle et qui permettaient de pas prendre beaucoup d'espace sur la table de jeu. Et c'est ce que j'ai bien apprécié de ce jeu-là.
Format des cartes.
Ouais, non, je trouvais ben c'est le fun des fois d'avoir un jeu qu'on peut jouer en mangeant, parce qu'on a joué en mangeant justement, et des fois ça prend beaucoup d'espace. Mais non, mais j'ai bien apprécié le jeu en général aussi. On va passer à un autre jeu. Cher le comte détective conseil, je vais laisser Marie-Lou, ben, je vais le présenter, puis après ça, Marie-Lou va en parler un peu plus. Un jeu qu'elle a très beaucoup apprécié. C'est un jeu, dans le fond, pour 1 à 8 joueurs. Sorti en 1981 et créé par Raymond Edwards, Susan Goldberg, Gary Grady, publié par Hystari Games. Le but, c'est de résoudre l'enquête et faire le plus de points que Sherlock Holmes, dans le fond, pour remporter la victoire. C'est un
Ouais.
jeu coopératif.
C'est ça. Dans le fond, on est tous ensemble pour essayer de résoudre le cas qui nous est présenté. Dans le fond, le jeu est composé de plusieurs livrets. Il y a un livret d'histoire. Il y a aussi un annuaire téléphonique des gens qu'on peut consulter dans la ville. Il y a une carte, mais c'est pas un plateau de jeu. On se déplace pas sur un plateau, rien, là. C'est vraiment ça marche vraiment en prenant des notes, puis en regardant les documents. Dans le fond, faut élucider le mystère. Puis on se compare dans le fond à Sherlock Holmes là, qui fait un score presque parfait. Puis le but, c'est de deviner qu'est-ce qui s'est passé en faisant le moins de choses possible. Dans le fond, là, aussitôt qu'on décide, disons, d'aller voir Scotland Yard pour qu'il nous donne des indices sur le cas, ben, tu sais, ça compte comme une action. Donc là, le plus d'actions qu'on fait, ben le plus facile c'est de résoudre l'énigme. Puis donc c'est ça. Si on a réussi de le faire en le moins d'actions possible, ben, on peut avoir un score supérieur à Sherlock Holmes. Mais en réalité, le but c'est de s'en approcher le plus possible, là.
C'est un jeu dans le fond qui. Dans le fond, il y a 10 scénarios de base dans le jeu. Il y a plusieurs scénarios qui sont disponibles aussi sur le site Board Game Geek qui ont été créés par les utilisateurs du jeu. Et puis, on a joué la même soirée que le César et Cléopâtre, donc à la revanche aussi, là, à peu près 2 mois. Et on a regardé justement pour acheter le jeu et on a constaté qu'il y a une nouvelle édition là, qui est en cours d'impression. Qu'on va sûrement se procurer
Ouais.
lorsqu'elle va sortir.
Ouais. Ce qu'on a aimé de ce jeu-là, c'est que c'était vraiment immersif. On était à la revanche, il y avait des gens qui jouaient juste à côté de nous à des jeux un petit peu plus bruyants. Puis nous, il fallait lire des choses à voix haute. Mais même à ça, c'était comme si ce qui se passait alentour de nous, on s'en rendait pas compte parce qu'on était vraiment absorbés là, dans l'histoire du jeu. Puis le temps a passé super vite. En tout cas, c'était vraiment
Ouais,
le fun.
effectivement, j'acquiesce sur ça, c'était très, 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 très immersif. Je pense qu'il y avait une bulle imaginaire autour de nous,
Ouais.
c'était très, tellement c'était
On se
immersif.
sentait vraiment comme des enquêteurs.
Ouais. Donc, je vais parler d'un autre jeu, Scoville. Marie, il a pas joué. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, sorti en 2014, créé par Ed Marriott et publié par TMG, Tasty Minstrel Games. Dont le but du jeu, c'est de cultiver des piments pour faire des recettes ou vendre ces piments pour faire le plus de points possible, dans le fond, à la fin de la partie. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce jeu-là. J'ai bien hâte d'y rejouer. Peut-être c'est parce que j'ai fait un bon score dans la partie que j'ai plus apprécié. Des fois, ça peut arriver. Ça a un petit penchant pour moi, des fois. C'est un jeu, dans le fond, où la mécanique du jeu est très intéressante. Dans le fond, on plante des piments et on envoie notre cultivateur pour récolter des piments. Mais comment que ça marche, la récolte de piments, c'est qu'on se déplace entre deux piments et le match de les deux couleurs du piment donne un autre piment. Donc, il y a une façon d'avoir des meilleurs piments en allant entre certains types de d'autres piments. Et plus le piment est fort, élevé, ben il peut nous donner plus de points dans certaines recettes. Et il y a des tuiles bonus aussi si on plante certains types de piments, comme il y a le gosse piment, le piment blanc, piment noir. Je pense que les autres, ils donnent des points bonus si on est les premiers à jouer, puis les tuiles partent rapidement. Donc, c'est une certaine façon de faire d'autres points. J'ai vraiment aimé la thématique du jeu. Et je trouvais qu'il était très bien balancé là, pour 4 joueurs. Pour l'instant, je le recommande, même si j'ai seulement joué une fois. Et même, j'ai bien hâte d'y rejouer.
Moi, j'ai hâte de l'essayer, en tout cas. En plus, la thématique de piment fort, ça me rejoint beaucoup. J'aime beaucoup la bouffe épicée, pour ceux qui me connaissent. Donc, puis Jean-Philippe m'en a
Ouais.
parlé, juste en bien, j'ai vraiment hâte d'essayer ça.
Puis il y a d'ailleurs une extension là, qui est sortie en 2016, Scoville Labs. J'ai regardé un peu, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que ça permet d'avoir un petit laboratoire à toi personnel où tu cultives des piments aussi que les autres joueurs n'ont pas accès. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais pas regarder complètement qu'est-ce que l'extension en faisait, mais je voulais en faire part quand même. Un autre jeu qu'on a acheté assez récemment, CV, qu'on a joué quelques fois depuis. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, sorti en 2013. Et créé par Philippe Milonski et publié par Granard. Le but, c'est de faire le plus de points possible en développant son CV et en réalisant des objectifs personnels et des objectifs communs qui vont nous donner plus de points, dans le fond. Je trouvais le jeu quand même assez facile à apprendre. L'idée, c'est fun. L'idée thématique, pas thématique, mais personnalisée, dans le fond, qui, selon les cartes qu'on a dans son CV, on va en lancer plus ou moins et les dés ont certains icônes de relations et etc. qui nous permettent d'acheter d'autres cartes et développer son CV.
Ouais, c'est pas juste son CV professionnel, c'est son CV de vie aussi. Là. Donc, il y a des cartes
C'est
que
vrai.
c'est, mettons, avoir des jumeaux ou prendre sa retraite ou s'acheter une grosse maison. Il y a plusieurs choses qu'on peut s'acheter. Donc, les cartes qui sont devant nous, ça représente qu'est-ce qu'on a réussi à accomplir dans notre vie. Puis, on peut jouer aussi en essayant de s'inventer des histoires pour pour rendre le jeu un petit peu plus vivant là, que juste des cartes devant nous là. En tout cas l'autre fois Jean-Philippe avait eu des cartes puis tout fitait ensemble dans une histoire, c'était quand même assez drôle.
C'est assez léger, là. C'est un jeu plus, je classerais, de familial. C'est pas très compliqué. Lance des dés, achète des cartes. Il y a quand même une bonne part de chance, dépendant, vu que les dés font en sorte qu'on ne peut pas tout le temps acheter tout ce qu'on veut. Puis il y a quelques cartes qui nous permettent d'avoir plus de dés ou des jetons de supplémentaires.
C'est le
Donc,
hasard de la vie.
ouais, effectivement, c'est le hasard de la vie. Je pense que ça fait le tour pour moi, pour ce jeu-là.
Ben moi, je le recommanderais pour 2, 3 joueurs, mais pour 4, ben est-ce qu'il joue à 5?
Non.
OK. En tout cas, 4 personnes, j'ai trouvé que c'était un petit peu long. On a joué à 4. Puis je trouvais qu'il était plus à son meilleur à 2 joueurs, là, parce que c'est quand même juste un petit jeu de cartes. Puis des fois, c'est long, un petit peu réfléchir qu'est-ce qu'on va aller prendre exactement, parce qu'on peut décider de relancer les dés, là. Donc là, quand on relance les dés, ben c'est toutes des nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Puis des fois, ça peut être un petit peu long. Donc je dirais 2 joueurs, là, c'était mieux.
Ouais, on n'a pas essayé à 3 joueurs, peut-être que c'est aussi bien à 3 joueurs, mais c'est vrai qu'à 4, ça peut venir assez long. Mon gros point négatif de ce jeu-là, c'est la boîte que je trouve très grosse pour. Il n'y a quasiment rien dans la boîte. Ça prend beaucoup de place dans son armoire de jeu pour ça. Non, pour ça pourrait être une petite boîte 2 fois moins grosse,
Ouais.
même 3 fois moins grosse. Petit bémol pour ça.
Le design du jeu est très beau, par exemple,
Ouais,
là, puis
ouais,
les images qui sont sur la boîte ça capte l'attention, là,
ouais.
mais non, mais t'as raison.
D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur notre fil Instagram. J'ai pris une des photos de ce jeu-là. Du plateau. Très belle photo. Un autre jeu que j'ai joué récemment, de Galeries, qui est sorti en 2015. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, créé par Vital Lacerda et publié par Eagle Griffon Game. Le but, devenir le propriétaire de galeries d'art le plus prospère, dans le fond, avoir le plus d'argent possible à la fin de la partie. C'est seulement moi qui ai joué, donc je vais y aller assez brièvement. Dans le fond, le jeu, je trouvais au début, c'était dans mon groupe de jeux que j'ai joué, et il n'y avait pas le temps nécessairement, il y avait lu les règlements, il n'y avait pas le temps d'aller en profondeur, et ça a été un peu compliqué au début à tout comprendre pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai allé là. Un peu la mécanique du jeu, c'était un peu flou au début. Même en cours de partie, ça venait un peu plus clair, mais ça a été quand même long. Donc, c'est peut-être ce que je recommande, c'est d'avoir quelqu'un qui a bien préparé, qui a joué un peu, qui a testé un peu toutes les mécaniques pour bien l'expliquer. Dans le fond, c'est pas un placement de travailleur, parce que dans le fond, il y a 4 stations où on peut aller dans le jeu. Pour faire deux actions, il y a 2 actions possibles à chacune des stations. Donc, il y a 8 actions possibles dans le jeu. Et donc ça limite quand même les actions possibles, il y a les choix, là, et, il n'y a pas une si longue réflexion que ça à avoir dans le jeu. Et un aspect intéressant du jeu, c'est que lorsqu'on se déplace, dans le fond, on a tout le temps un bonhomme qui on va reprendre de où est-ce qu'on est parti, où ce qu'on est arrivé la dernière fois, et on va se déplacer ailleurs. Et s'il y a un autre joueur là, on peut le kicker, qui, en le tassant, ça lui donne une action de plus qui peut payer en descendant son marqueur jusqu'à un certain endroit. Et dans le fond, ça lui donne soit de faire l'action, ou il y a aussi des actions complémentaires qui permettent de jouer des tickets pour déplacer des joueurs dans sa galerie d'art. Je ne vais pas rentrer dans le détail du jeu. Et dans le fond, le jeu... Je trouvais que, dans le fond, pour faire du revenu, il faut attirer des gens, des visiteurs dans sa galerie. Et pour ça, on a besoin de tickets. Et les tickets partent très rapidement dans le jeu. On se rend compte qu'à la fin de la partie, qu'on n'est plus capable d'amener du monde parce qu'il n'y en a plus de tickets en jeu. Donc, à la première partie, on se fait un peu, on s'est tous rendu compte, oh, il n'y en a plus ben, puis on n'est plus capable de faire quasiment rien dans le jeu à cause de ça. Donc, mais c'était quand même très bien pour ça. J'ai bien aimé ce concept-là des tickets. Et un autre point que j'ai bien aimé, c'est le fait, dans le fond, on va augmenter des artistes, dans le fond, on va les rendre plus fameux, dans le fond. Et ça va faire, dans le fond, les objets qu'on va avoir achetés de eux vont valoir plus cher. Puis on va pouvoir les vendre à un certain endroit, et à la fin de la partie, ils nous valent aussi le même montant où ils sont rendus dans leur échelle de fame.
Popularité.
De popularité, oui, exactement. Donc, j'ai trouvé le jeu assez intéressant en général, mais il faut vraiment que j'y rejoue là, pour avoir une meilleure opinion là, du jeu. Là, c'est encore un peu un flou tout ça. Là. C'était une première partie intéressante, hein, malgré tout. Et les composants du jeu sont vraiment de très bonne qualité. Le carton le plus épais que j'ai vu... Peut-être que ça fait monter beaucoup le prix du jeu aussi. Là. Ça, c'est un bémol pour certaines personnes. Je pense que c'est un jeu à 90-100$. Donc, c'est ça pour ce jeu-là. On va parler maintenant de Twilight Struggle, un jeu qu'on a acheté assez récemment et qu'on a joué une partie complète récemment. C'est un jeu pour 2 joueurs, sorti en 2005, créé par Ananda Gupta et Jason Matthews, est publié par GMT Games. Le but, remporter la guerre froide. Tu sais parler un peu sur le jeu, vu que...
OK, ben c'est ça. Dans le fond, on a une carte du monde avec les différentes puissances là, qui étaient importantes dans le temps de la guerre froide, mais quand même presque tous les pays qui sont sur la carte.
Mm-hmm.
Puis, dans le fond, le but, c'est de placer nos influences le plus stratégiquement possible là, pour pouvoir gagner la guerre. Il y a aussi le côté guerre nucléaire. Là. Dans le fond, on peut changer un petit peu mm-hmm. le cours de l'histoire puis utiliser des armes nucléaires, finalement. Ouais. Là. Donc, c'est ça, il y a un compteur là, de guerre nucléaire. Puis, il faut faire attention parce que si on se rend là à l'étape ultime de la guerre nucléaire, ben dans le fond, le monde explose. Puis...
celui qui le fait enclencher perd la partie. Donc, ce n'est pas à faire.
C'est ça. Donc, c'est ça, le but, c'est de placer des influences. Puis, une fois qu'on est rentré sur un continent, ben là, on peut élargir notre réseau d'influence entre les pays. Puis, dans le fond, on score des points selon les différentes régions. Mm-hmm. Puis, c'est un jeu qui se joue avec des cartes, dans le fond. Puis, les cartes, sur chaque carte, dans le fond, il y a un événement important qui s'est passé dans la guerre froide qui est expliqué, puis ça fait des effets. On peut décider d'utiliser la carte pour son effet spécial, ou on peut aussi utiliser la carte là, selon sa valeur d'opération. Là, ça veut dire, dans le fond, ce qui nous permet d'augmenter notre influence dans un pays ou de faire des coups spéciaux là, pour aller enlever de l'influence à un joueur, puis soit s'en remettre ou dans le fond, dans ce pays-là. Puis moi, ce que je trouve très intéressant dans ce jeu-là, c'est les événements, là, que ce soit vraiment basé sur l'histoire. Puis il y a aussi un livret qui explique tous ces événements-là, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on peut apprendre beaucoup de choses sur la guerre froide, mais dans la partie qu'on a jouée, on n'a pas lu là, toutes ces choses-là parce que ça allait rajouter pas mal de temps à la partie, mais je trouvais ça intéressant d'avoir la possibilité de le faire. Là, quand on sera plus expérimenté avec le jeu, j'aimerais ça pour qu'on soit plus, on se sente plus dans la guerre froide. Là.
Ouais, effectivement, c'est un très bel aspect du jeu. Ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est vraiment le fait que à chaque partie qu'on va jouer, on va comme apprendre un peu plus sur les cartes qu'on peut jouer. On va vraiment gagner de l'expérience puis devenir de meilleur en meilleur, avoir une meilleure stratégie. Ça a un positif et un négatif parce que si un des, mettons, moi je vais jouer avec Marilou la plupart du temps, probablement tout le temps ce jeu-là. Mais j'ai découvert aussi une version en ligne qu'on peut jouer contre deux joueurs. Si moi je décide d'aller jouer quelques parties là, ben, je vais avoir beaucoup plus d'expérience que Marilou et ça va peut-être créer une différence dans le jeu. Donc ça a un point positif et négatif, mais je pense que si on évolue ensemble, on peut avoir des très belles parties. Ça c'est vraiment un très beau point positif. Et un autre point intéressant du jeu qu'il faut vraiment faire attention, c'est lorsqu'on joue des cartes et qui ces cartes-là, si on fait pas attention, peuvent faire justement déplacer la traque de guerre nucléaire et ça peut nous faire perdre la partie assez rapidement si on joue la mauvaise carte au mauvais moment. Parce que c'est le joueur qui l'a joué, même si, mettons, je joue une carte et ça donne une action à l'autre joueur de faire justement un coup qui, ça permet de baisser le statut de nucléaire et ça me fait perdre la partie. Donc, il faut vraiment faire attention aux cartes qu'on joue. Vraiment, c'est très stratégique. Très bien fait, j'adore vraiment ce jeu-là. C'est un des jeux de guerre favoris. Là, pour le... C'est pour ça aussi qu'il est au deuxième rang là, du classement sur Board Game Geek. Il a été premier aussi longtemps, là, je ne sais pas combien de temps. Mais,
le classement global de tous les jeux.
Donc, le prochain jeu qu'on va parler, c'est Android Mainframe. Mainframe, pardon. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs sorti en 2016, créé par Jordi Jenné et Gregorio Morales, publié par Fantasy Flight Games. Dans le fond, le but du jeu, c'est de sécuriser des zones avec des points d'accès qu'on a placés pour faire des points. Dans le fond, si on a une zone avec 2 points d'accès, ben c'est la grandeur de la zone fois le nombre de points d'accès, ce qui nous donne des points. J'ai joué ce jeu-là 2 fois, dans le fond, à 2 joueurs, et j'ai bien aimé. C'est un petit jeu assez stratégique, 30 minutes environ. On place dans le fond des barrières pour essayer de faire des zones et on a des petits marqueurs pour justement se placer dans une certaine zone. La particularité du jeu, c'est qu'on peut pas fermer une zone si l'adversaire est présent dans cette zone-là. Donc, c'est comme ça un peu que se déroule la stratégie. Je trouvais quand même que c'est un jeu qui... On a plus tendance pour gagner, en tout cas les 2 fois j'ai réussi à gagner de cette façon-là, c'est d'aller... Si un joueur met un point d'accès, c'est de l'entourer de barrières pour y faire juste un point. Et profiter des chances où on peut faire 2 points, fermer une zone de 2 espaces, 3 espaces. C'est assez difficile de fermer des grands espaces. C'est ce que j'ai trouvé. C'était vraiment plus un jeu de... Je vais essayer de bloquer l'adversaire puis profiter un peu des ouvertures qu'il me donne pour faire des points. Mais tout de même, j'ai quand même bien aimé ça, le jeu en général. Il y a des cartes d'habilité spéciales qu'on a dans nos mains. Dans le fond, comment ça se joue? C'est qu'il y a tout le temps 3 cartes actives qui nous permettent soit de faire certaines actions, placer des points d'accès, placer des barrières, etc. Et on a des cartes à nous, propres à notre personnage, qui nous permet de faire des actions spéciales, mais je n'ai pas trouvé que ces cartes-là étaient si intéressantes des fois. Moi, je ne les ai pas toujours utilisées. Je trouvais des fois ça peut peut-être aussi créer une différence entre les joueurs, vu que ce n'est pas les mêmes cartes, mais bon, j'ai pas assez joué pour rentrer dans le détail de ces cartes-là. Je trouvais pas que c'était un ajout si important dans le jeu, d'avoir des habiletés spéciales au personnage. Et puis, comme je disais, c'est un jeu d'environ 20 minutes à jouer chaque partie. Donc, je vais enchaîner avec le jeu Baseball Highlight 2045, un jeu pour 1 à 4 joueurs, sorti en 2015, créé par Mike Fitzgerald et publié par Eagle Griffon Games. Le but, c'est un jeu de baseball, c'est de remporter une série 4 de 7 pour devenir champion. Dans la vie, j'aime ça, le sport en général, donc les jeux qui ont une thématique de sport, ça a un petit plus pour moi à la base. Et dans le jeu, ce que j'ai bien aimé, c'est dans le fond, c'est pas juste des joueurs normaux, humains, il y a aussi des cyborgs et des robots qui ont certaines habiletés spéciales, et il y a certaines des cartes qui permettent de canceller les coups frappés par d'autres joueurs, mettons, par des robots, par des cyborgs. Il y a vraiment c'est un jeu de deck building où on va jouer 6 joueurs, dans le fond, chacun notre tour. Et dans le fond, sur les cartes, il y a des hits et il y a aussi des jeux défensifs et des jeux offensifs. Donc, ça nous permet d'avancer sur les buts ou de bloquer l'adversaire puis de retirer ses joueurs. Dans le fond, comme au baseball. Si vous connaissez le baseball, le but, c'est de frapper la balle, avancer sur les buts et rentrer au but pour faire des points. Tout simplement.
Merci du rappel.
Ouais. C'est peut-être pas tout le monde qui connaît le baseball. Et le jeu est vraiment bien fait. On se sent vraiment dans une partie de baseball. C'est ce que j'ai aimé. Et avec les habiletés spéciales, on a vraiment une sensation de se monter une équipe qui fait plus forte de plus en plus au cours de la partie, vu que c'est un deck building. Donc après chaque partie dans le jeu, on va acheter une carte ou deux selon l'argent qu'on a disponible. Mais par contre, il faut vraiment faire attention pour avoir un équilibre entre les joueurs défensifs et offensifs, parce que si on n'a pas de joueurs qui font de la défense, ben l'autre joueur va juste faire des points, des points, des points, puis on sera pas capable de l'arrêter. Tandis que, puis si on a beaucoup de joueurs gros offensifs, mais que l'autre joueur a beaucoup de joueurs défensifs, ben on sera quasiment pas capable de faire de points, il va sûrement prendre l'avance dans la partie. Donc en général, c'est ce que j'ai aimé de ce jeu-là. Je trouve que ça joue très bien, ben dans le fond, c'est un jeu plus un joueur contre un joueur, même si juste jusqu'à 4. Ce que j'ai su, c'est qu'à 3 joueurs, on joue quand même 3 joueurs, mais pour moi, une partie de baseball, c'est 1 contre 1, et moins 1 contre 1 contre 1. Ça me semble un peu moins logique. Et la version à 4 joueurs, dans le fond, c'est qu'il y a 2 parties qui se déroulent en même temps, puis on alterne les équipes, là, comme un peu une série à 4 équipes. Et aussi une version solo dans le jeu. C'est souvent un jeu que j'achèterais pour jouer en solo et à 2 joueurs et pas plus que ça, pas à 3 ou 4 joueurs. Maintenant, on va passer à Avignon, A Clash of Pope. C'est un jeu pour 2 joueurs sorti en 2016 et que c'est le deuxième jeu que j'ai backé sur Kickstarter. Kickstarter qui est un site de socio-financement où il y a quand même beaucoup de jeux. Qui sont lancés. Beaucoup de jeux intéressants. Il y a aussi des grosses compagnies qui lancent leurs jeux sur cette plateforme-là pour faire un peu de la pré-vente. Mais assez. Donc c'est le deuxième jeu que j'ai backé sur Kickstarter. Et c'est créé par John Dubois et publié par Buttonshy. Et le but, c'est d'attirer 3 personnages dans sa congrégation. Tu veux un peu en parler?
Dans le fond, le jeu se passe vraiment sur la table avec des cartes. Il y a différentes positions où les cartes peuvent être. Au départ, les cartes sont dans le milieu, mais les joueurs jouent face à face. Puis, dans le fond, on peut soit pousser la carte vers l'adversaire ou la tirer vers nous. Puis, il y a différentes cartes qui ont différentes habiletés spéciales. Dans le fond, le but, c'est d'avoir deux
Trois
personnages,
personnages.
trois personnages dans sa congrégation. Là, on remporte la partie. Donc, faut avoir réussi à en tirer trois vers nous. Mais il faut faire attention parce que des fois, il y a des combinaisons de cartes qui peuvent nous faire perdre la partie. Ou il y a une carte aussi si l'adversaire l'a dans ses mains, puis que nous, on a une autre carte dans nos mains, ben cette combinaison-là, ça nous fait perdre la partie.
Mm-hmm.
Donc, il faut faire attention à quelle carte qu'on pousse ou qu'on tire, là. Puis dans le fond, c'est ça, il y a plusieurs personnages différents.
Mm-hmm. Puis dans le fond, aussi dans la campagne Kickstarter, il y avait des personnages exclusifs. Je ne l'ai pas encore essayé. Dans le fond, ils remplacent certains des personnages, ont d'autres habiletés différentes.
Ouais. C'est une thématique Moyen-Âge, dans le fond. Il y a des paysans, des nobles, des chevaliers, des évêques, des personnages religieux, comme ça. Là.
C'est une course à être pape, dans le fond, puis on veut avoir des appuis. Et puis, ce que j'aime de ce jeu, dans le fond, c'est que c'est un pocket game, fait que c'est un petit format poche, qu'on peut traîner un peu partout, qu'on peut sortir, ça prend pas beaucoup d'espace. Et ça, c'est très agréable d'un jeu, environ 10 minutes à jouer, puis c'est un jeu stratégique. Donc, souvent, tu sais, des jeux courts, ça, dans ma tête, ça sonne plus chance, mais celui-là, c'est un jeu stratégique.
Ouais, pure stratégie.
Pure stratégique, vraiment intéressant. Et comme un peu Marie mentionnait, il faut vraiment profiter des erreurs des adversaires pour gagner. C'est vraiment un jeu, fais le moins d'erreurs possible et tu vas réussir à gagner.
Ouais, faut penser à tout avant de choisir de tirer ou pousser une carte, là, parce que des fois, il y a des choses qu'on voit pas, là, ça nous est arrivé souvent.
Ouais, à chaque partie, je pense que c'est comme ça que ça se termine. C'est vraiment un jeu de analyse, mais hop, j'ai oublié ça, puis hop, c'est terminé. Ça se finit comme ça. C'est pour ça que ça, le jeu est assez rapide quand même, là, 10 minutes gros maximum. Ça s'explique très rapidement aussi. Un autre jeu qu'on a joué la semaine dernière, Relic Runners, un jeu pour 2 à 5 joueurs, sorti en 2013, écrit par Matthew Dunstan et publié par Days of Wonder. Le but, c'est de devenir l'explorateur avec le plus de points de victoire à la fin de la partie.
C'est un jeu assez familial, là. Le thème, dans le fond, c'est la jungle, les temples, l'exploration, puis ramasser des reliques, là, comme le titre le dit.
Mm-hmm.
Nous, en tout cas, quand on nous a expliqué le jeu, on avait compris que le but, c'était vraiment de ramasser des reliques, là. Dans le fond, les reliques, c'est des petites figurines en plastique, là, sont vraiment belles, bien faites, là. Puis il y en a beaucoup, là, à ramasser dans le jeu. On pensait que c'était vraiment ça, le but, mais en réalité, c'est de faire le plus de points possible. Les reliques donnent des points, mais il y a aussi d'autres façons là, de faire des points. Puis, pour faire attention quand on joue avec des joueurs un petit peu plus expérimentés, il faut essayer d'avoir une stratégie globale et non juste de ramasser des reliques. Là. Si jamais vous jouez à ce jeu-là, vous le saurez. Le titre est un petit peu trompeur.
Je pense qu'il faut appuyer un peu plus sur le runner. Ça veut dire, dans le fond, dans le jeu, il faut développer un réseau qu'on permet de se déplacer très rapidement. Qu'on fait une suite de connexion, ça nous permet de se déplacer de toute cette série-là. Et dans le fond, il y a, on a un plateau personnel de joueurs où on a des caisses qu'on doit avancer et les caisses, plus on les avance, plus il y a des bonus intéressants à aller chercher. Et ça, c'est vraiment là qu'on fait des points. Là, il faut en remarquer au début de la partie parce que les reliques, comme Marie disait, ils valent pas beaucoup de points. Moi, j'étais le joueur avec le plus de reliques différentes et j'étais loin de gagner. Il faut vraiment développer un réseau pour, lorsqu'on passe sur une rivière, dans le fond, on permet d'avancer une de nos caisses. Et dans le fond, si on fait un réseau qui touche à plusieurs rivières, ben, on peut déplacer 3-4 caisses d'un seul tour, qui donne vraiment beaucoup, qui peut aller faire chercher beaucoup de points.
Ouais. Il y a différents temples aussi là, sur la carte. Là. Dans le fond, on fait des chemins entre les temples. Puis des espèces d'endroits là où on peut ramasser des je sais pas comment ça s'appelle là, mais des choses qui nous permettent d'avancer là sur le plateau. Puis c'est ça dans le fond, il y a beaucoup de choses qui se passent pour un jeu. Quand on regarde le jeu là, on peut penser que c'est familial, un petit peu enfantin là, basé sur le look, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en même temps là. J'ai été un petit peu impressionnée de ça là, je pensais que c'était un petit peu plus pour enfants, mais il y a beaucoup de matière là. Je pense que ça peut être un bon jeu pour initier des enfants là, à des jeux de société un petit peu plus compliqués, là, où il y a plusieurs choses à surveiller en même temps, puis il faut avoir une stratégie globale. Là. J'ai trouvé ça intéressant.
Oui, c'est très bien dans l'ensemble. Puis ce que j'aime aussi, c'est que dans le fond, on a des rations, puis là, on se déplace, on va explorer. Quand on explore une place, ça nous coûte une ration. Mais à un moment donné, on n'a plus de rations, il faut revenir au centre du jeu, récupérer nos rations, puis repartir. Dans le fond, on revient au camp de base, on reprend des rations. Ouais. et on s'en va explorer de nouveau.
Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un réseau quand même bien développé, ouais. Parce que c'est difficile de revenir au milieu, puis après ça, d'aller explorer ailleurs, là, si nos chemins sont pas bien reliés. Moi, j'avais pas beaucoup de chemin, donc je me suis pas beaucoup promenée, puis j'ai pas beaucoup fait de points. Là.
Ouais. C'est vraiment, le runner est important, et le relais peut-être encore. un autre jeu qu'on a joué la même soirée, la semaine dernière, Suburbia, un jeu de 1 à 4 joueurs sorti en 2012 et créé par Ted Alspach, publié par Hystery Games. Le but, c'est d'avoir la plus grande population de tous les joueurs dans la partie. Et c'est un jeu, si vous connaissez Castle of Mad King Ludwig, c'est le même auteur. Mad King Ludwig est sorti en 2014, donc c'est après. Suburbia a été fait avant Mad King Ludwig.
Mm. Dans le fond, on construit une ville là assez moderne là avec des tours à logements ou à bureaux, des maisons, des parcs, des édifices municipaux, des aéroports, des industries. Il y a différentes choses qu'on peut placer là. C'est un jeu de tuiles, là, des tuiles hexagonales qu'il faut placer stratégiquement pour faire le plus de points possible. Il y a différentes tuiles qui peuvent nous donner plus de points tout dépendant de qu'est-ce qu'il y a autour. Là, il y a des choses qui sont plus industrielles, des choses qui sont plus résidentielles un petit peu. Donc, si on réussit à placer nos choses comme il faut, ben on va faire beaucoup de points. Puis, au fil de la partie, faut faire attention aussi parce que quand notre population augmente, ça nous coûte un petit peu plus cher. Donc là, on a du revenu puis de la population. Donc, il faut faire attention que notre augmentation de population soit pas trop importante pour notre revenu. Il faut essayer que ça soit quand même assez... que ça marche ensemble, là, le revenu.
Il faut garder vraiment un équilibre de progression. C'est ce que On se l'était fait dire au début de la partie d'aller équilibrement monter. Moi, j'ai monté très rapidement ma population. Et là, ça fait en sorte que j'étais en revenu négatif et en réputation. J'étais en réputation négative. Donc, c'était pas très intéressant. Je commençais à aller de l'arrière. Et si on fait pas d'argent, on n'est pas capable d'acheter de tuiles. Si on n'achète pas de tuiles, on n'est pas capable de faire d'argent. Donc, c'est un dessus qui on finit par rester en arrière. Par contre, il y a quand même des objectifs personnels et communs qui peuvent, surprenamment, j'ai réussi à faire beaucoup de points avec ça quand même et m'approcher, mais pas gagner. Mais ils peuvent donner quand même beaucoup de points, 15-20 points à chacun. Ouais. Les parties, ça a tourné autour de 100 points, là, donc ça peut être assez intéressant, cet aspect-là du jeu.
Les objectifs, dans le fond, c'est par rapport aux tuiles qu'on a dans notre ville, là, et non par rapport à notre population.
Ouais.
Donc, disons qu'on décide de placer beaucoup de lacs, ben on peut remporter un objectif là, qui va être d'avoir le plus de lacs possible. Donc là, ça peut nous faire beaucoup de points, alors qu'en réalité, les lacs, quand on les place sur la carte, ben ils nous rapportent pas grand-chose. Là, ils rapportent un petit peu d'argent, là, tout dépendant de qu'est-ce qu'il y a autour. Mais pour la population, ça nous aide pas, mais à la fin de la partie, ça peut être intéressant.
Puis dans le fond, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est un peu comme dans Mad King Ludwig, c'est de comment qu'on va acheter les tuiles. Il y a une espèce de suite de tuiles à acheter et plus est loin dans la file, plus il y a d'argent supplémentaire à dépenser pour l'acheter. Donc, c'est tout un choix. Est-ce que je dépense un peu plus pour l'avoir tout de suite pour pas que les autres joueurs viennent l'acheter avant moi ou j'achète un peu moins cher pour me garder de l'argent pour un autre tour? Donc, j'aime vraiment cette option-là de choix à faire qui, des fois, peut prendre un certain temps encore là à choisir, mais j'aime bien cet aspect-là de... Donc, ça fait le tour des jeux qu'on a joué récemment ou un peu plus longtemps, mais comme je disais, c'est qu'à chaque épisode, on va parler des jeux qu'on a joués entre chaque épisode du podcast. On va parler, dans le fond, pour continuer, on est allé en fin de semaine, au moment du tournage, ça veut dire les 21 et 22 mai, aux Journées ludiques de Québec. C'est un événement qui était super bien organisé, où on pouvait jouer à des jeux... sur place, il y a eu un bazar de jeux. Dans le fond, le monde amenait leurs jeux à vendre et c'était très bien organisé. Ils amenaient leurs jeux, ils disaient le prix et eux autres s'occupaient de faire la gestion de ça. Et quand on sortait avec le jeu pour le payer, il y avait une liste pour redonner l'argent aux joueurs. Donc aux personnes qui avaient les jeux. Donc, le monde n'avait pas à être sur place et attendre que quelqu'un vienne acheter leur jeu. Ils ont vraiment bien géré ça. Je pense que nous, on n'avait pas de jeu à vendre, mais je suis sûr que le monde a vraiment apprécié cet aspect-là.
On a profité pour faire un petit peu de magasinage, par contre. Mais moi aussi, j'ai été impressionnée de l'organisation, là. On est allé à d'autres types d'événements. C'est la première fois qu'on allait aux journées ludiques, là. Mais on était allé à d'autres types d'événements, là, qui étaient plus style salon de jeux de société où il y avait des exposants, puis vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui se promenait. Là, c'était vraiment plus axé sur jouer à des jeux. Puis le local se prêtait vraiment bien à ça, là. C'était un grand local, puis ça circulait bien. Puis aussi, c'était pas trop bruyant. Donc, en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment parfait. Puis tous les organisateurs étaient vraiment gentils. Puis il y a plusieurs concepts intéressants qu'on a vus. Je vais tester.
Ouais, comme dans le fond, il y avait un principe de cône orange. qui soit on pouvait le demander avoir dessus un petit papier qui demandait bon on cherche des joueurs pour faire, tout simplement ou on a une question on aimerait ça se faire expliquer le jeu puis on l'a essayé deux fois et deux fois ça a marché très rapidement. On a joué dans le Far Mysterium qui prend beaucoup de joueurs. On était seulement à deux donc on a réussi à jouer à six ou sept joueurs.
Moi je pense qu'on était sept.
Sept joueurs donc ça a très bien marché et on a aussi joué à Trajan. Même en fin de soirée, on a réussi à jouer à trois joueurs. Le joueur avait joué déjà deux fois, donc il a réussi à nous expliquer en même temps, puis on a eu beaucoup de plaisir à essayer ce jeu-là.
Ouais, puis c'est le fun parce que c'est pas juste les organisateurs de l'événement qui peuvent venir expliquer les jeux. Ça peut être un peu n'importe qui qui a déjà joué à ce jeu-là. Dans le fond, il y a des cônes pour ceux qui recherchent des joueurs, mais il y a aussi des cônes pour les gens qui ont besoin d'explications sur les règlements d'un jeu parce que dans le fond, il y a un inventaire de jeux sur place. On peut aussi amener nos propres jeux si on veut, là, mais il y a un grand inventaire de jeux sur place. Donc, on peut simplement aller prendre le jeu, s'installer à une table, mettre un cône pour trouver des joueurs ou avoir des explications, puis c'est parti, on peut jouer. Puis les gens étaient vraiment axés là, sur la coopération. Puis s'ils voyaient là, que tu étais en train de lire les règlements d'un jeu, ben, ils venaient t'aider tout de suite. Là. C'était vraiment fun.
Ouais. Dans le fond, les jeux, il y avait une section fournie par Sociojeux et l'autre par Infini Jeux. Il y avait deux sections. Infini Jeux, il y avait aussi des animateurs d'eux autres-mêmes. Infini Jeux, c'est une boutique en ligne. Pour acheter des jeux de société, justement, puis ils ont un service aussi d'animation de soirée.
Oui. Il y avait aussi un distributeur de jeux sur place là, qui avait des jeux en démo, je dirais 3-4 jeux peut-être, là, ou 5-6. Donc, il y avait aussi la revanche, là, le pub ludique qui était sur place, mais je suis pas sûre qu'il avait amené des
jeux. Non, il avait pas amené de jeux.
Il était là plus pour expliquer, je crois.
Et il y a aussi, dans le fond, lors de ce même événement, il y a eu les gagnants du plateau d'or là, qui ont été remis aux deux jeux qu'on pouvait essayer. Nous, par contre, on est allé samedi matin pour le bazar, puis on est allé en soirée, et c'était durant la journée, là, l'essai des jeux pour le plateau d'or. Donc,
on peut avoir la chance de les essayer, mais vous pouvez aller voir sur le site web des journées ludiques pour voir les jeux gagnants.
Et donc, c'est ce qui fait le tour des journées ludiques. Là, je vais parler, dans le fond, d'un jeu qu'on a découvert récemment, un jeu sur Kickstarter qu'on a backé, le premier jeu que je back sans avoir essayé. Habituellement, je back, j'essaie la version print and play. Donc, je peux imprimer sur la campagne de financement, ils mettent une version gratuite d'essai, souvent en noir et blanc, qu'on peut imprimer nous autres mêmes, découper les cartes et jouer pour, dans le fond, essayer le jeu avant de l'acheter. De le supporter, dans le fond. C'est comme ça que ça marche. On supporte le jeu, on supporte la création de ce jeu. Et dans le fond, le jeu, c'est Cavern Tavern. La campagne s'est terminée le 20 mai dernier, donc assez récemment. Et c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, créé par Final Frontier Games. Et le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible. Et dans le fond, le jeu, c'est un jeu de... On est un peu un serveur. On va répondre à des commandes. Dans un pub un peu spécial avec des nains, des elfes et un peu toute une thématique dans ce style-là.
Une thématique fantastique.
Ouais, fantastique, ouais. Et c'est un jeu aussi de dice placement, ça veut dire dans le fond de placement de dés. Comme je parlais, c'est une mécanique que j'aime bien comme dans Castle of Burgundy. Donc on va lancer des dés et avec les résultats, on va pouvoir faire certaines actions pour faire des commandes. Ce que j'ai aimé aussi, j'ai lu les règlements du jeu, dans le fond, mais j'ai pas essayé. Donc, ce que j'aime pour l'instant, sans l'avoir essayé, c'est l'aspect faut faire des commandes. Plus on les fait rapidement, ben plus on va faire de points, dans le fond. Puis la partie dure un certain nombre d'heures, dans le fond, une soirée dans un pub, dans le fond. Plus on la fait rapidement, nos commandes, plus on va faire de points. Mmh. Puis si on les fait pas pantoute, ben le client va quitter et va nous faire perdre beaucoup de points. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Je vous invite à aller voir. Je crois que, dans le fond, comment ça fonctionne sur Kickstarter, il va y avoir la page de, même si la campagne est terminée, la page est encore disponible et parfois, ils vont même mettre en précommande directement sur la page du Kickstarter.
Est-ce que tu sais à peu près quand on va le recevoir, le jeu?
Je crois que c'était janvier 2017, si je ne me trompe pas.
Ça prend quand même un certain temps sur Kickstarter, il faut savoir ça, mais c'est le fun quand il arrive, un petit peu en surprise.
Ouais. Puis aussi, dans le fond, comme je disais, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs. La version solo a été débloquée dans la campagne. Dans le fond, dans les campagnes Kickstarter, des fois, il y a des stretch goals qui appellent. Donc, plus il y a de backers, plus il y a d'argent ramassé, plus ils développent des bonus dans le jeu. Et même le 6e joueur a été débloqué aussi dans la campagne. Au début, c'était un jeu pour 2 à 5 joueurs. Là, c'est rendu un jeu pour 1 à 6 joueurs. C'est quand même assez intéressant tout ça. Et des fois, il y a quelques petits bonus aussi là, exclusifs à la campagne Kickstarter quand on les contribue. Mais il faut être patient pour recevoir le jeu. donc, ça, c'est fait le tour pour nos découvertes de jeu. Là, on voulait parler, dans le fond, pour terminer, des derniers achats qu'on a faits qui ont lieu justement au bazar des Journées ludiques de Québec. Premier jeu qu'on a acheté, Food Chain and Magnet. Donc, si vous êtes version audio, je vais mettre sur la page, sur notre le post de l'émission, je vais mettre les photos des jeux. Sinon, vous pouvez aller voir aussi dans la section de nos jeux, le jeu en question. Donc, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, sorti en 2015, créé par Géréon Doumen et Joris Wirzinga, désolé pour la prononciation, et publié par Splatterspellen. Le but, c'est de construire une chaîne de restauration rapide et avoir le plus d'argent à la fin de la partie. C'est un jeu vraiment, on l'a essayé justement dernièrement, hier en fait, pour être plus précis si on parle de la journée qu'on enregistre. Et vraiment, ça a été facile de rentrer dans le jeu. J'ai lu les règlements puis on a réussi à jouer sans trop, je pense pas qu'il y ait beaucoup de bugs au niveau des règlements ou aller relire. C'est assez clair dès le départ, je pense.
Ça a bien été. Quand on regarde sur Internet, ça dit, là, attention, là, c'est un jeu stratégique, compliqué, puis tout ça, mais finalement, c'est pas si compliqué, là, pour des gens qui sont habitués à jouer à des jeux de société, là. Faut pas...
mais je pense, je pense qu'ils veulent dire aussi, c'est que plus les joueurs vont expérimenter, plus ça va venir... Si tu peux aller très rapidement, tu vas monter ta chaîne, puis si tu prends le monopole quasiment du quartier, ben tu vas faire beaucoup de points, beaucoup d'argent, puis les autres, tu vas les écraser. Non, c'est vraiment le jeu de... Tu développes ton restaurant, ta chaîne de restaurant, puis tu essaies d'être le plus prospère possible.
Ouais. Il faut aller jouer dans les plates-bandes des autres aussi. Dans le fond, comment ça se joue, c'est que, bon, on a une chaîne de restaurant... Puis on engage des employés. Dans le fond, c'est un jeu qui se joue avec des cartes. Donc, on va chercher des cartes qui représentent des employés pour pouvoir produire différents produits comme des burgers, de la pizza, différentes boissons. Une fois qu'on a ça dans notre inventaire, puis qu'on a nos employés qui nous permettent de le faire puis de les vendre, ben là, on peut faire des campagnes de financement, des campagnes de financement, des campagnes de marketing pour, dans le fond, créer des besoins de ces produits-là dans les maisons du quartier, parce que le jeu se joue là, sur un plateau avec des maisons. Puis nos restaurants sont situés à différents endroits. Puis là, dans le fond, on peut aller vendre nos produits aux maisons qui sont le plus près de notre restaurant. Mais au fil de la partie, ben, on peut élargir notre influence. Puis on peut aussi aller s'installer dans les territoires au début où les autres joueurs étaient. On peut aller décider de leur faire compétition là, juste à côté de leur restaurant. Puis, dans le fond, c'est ça, on crée des besoins pour différents produits dans les maisons du quartier par les campagnes de marketing. On leur vend nos produits, on ramasse de l'argent. Puis le but, c'est d'avoir le plus d'argent possible à la fin de la partie.
Puis, dans le fond, c'est ça, dans le fond, il faut faire sauter la banque, comme il appelle, une première fois. Puis ensuite, Il y a comme une espèce stratégique dans le jeu, c'est qu'au début de la partie, on va décider combien qu'il va avoir d'argent après que la banque a été vidée une première fois. Et ça, c'est intéressant. Dans le fond, ça peut nous déterminer, on sait un peu d'avance, ah, je veux que la partie soit plus courte, donc ma stratégie de début de partie va être en fonction d'avoir une partie plus courte. Donc c'est vraiment là que ça va jouer, peut-être au fil des parties, on va apprendre un peu plus comment jouer justement tout ça. Et un aspect intéressant aussi, puis très important, c'est les achievements, les milestones qu'ils appellent, les cartes. Dans le fond, c'est des cartes qui donnent des bonus au premier joueur qui les réussit. Mais les autres joueurs ont quand même la chance, dans le même tour, de faire aussi cet achievement-là, cet
Un exploit, un peu, qu'on pourrait
exploit-là, ouais.
dire.
Puis d'avoir ce bonus-là aussi qui est valide toute la partie. C'est des bonus qui sont assez intéressants et assez importants. Si on ne va pas en chercher, c'est pratiquement impossible de remporter une partie, à mon avis. Là, je pense que c'est vraiment un aspect important du jeu.
Il y en a qui sont plus importants que d'autres aussi, là. Comme moi, j'avais un congélateur hier qui me permettait de conserver de la bouffe alors que Jean-Philippe l'avait pas. Donc, tout ce qu'il produisait dans son tour, à la fin du tour, il perdait alors que moi, je le mettais dans mon congélateur. Donc, ça peut être important d'aller le chercher, là.
Donc c'est vraiment un jeu, j'ai bien hâte d'y rejouer, ça va être vraiment. Puis en plus, le plateau de jeu est toujours différent, c'est des tuiles aléatoires. Puis le plateau est en fonction du nombre de joueurs, donc plus il y a de joueurs, plus la zone, le quartier est grand, dans le fond. Puis un principe de route qui se connecte ensemble, qui va tout le temps être différent, qui détermine la distance des maisons par rapport à ton restaurant. Donc c'est vraiment intéressant comme. Je pense que chaque partie va être différente et vraiment un jeu. À jouer, à acheter, mais en tout cas pour l'instant, je ne veux pas me prononcer trop vite, là, mais je suis content de mon achat pour l'instant.
Puis les composantes du jeu sont vraiment à thématique rétro. C'est vraiment le fun, là. Tout fit ensemble, là. On a même des menus là, qui nous montrent. Je vais vous montrer un exemple. En fond, ça, c'est un aide de jeu. C'est le menu. Ça, c'est les employés qu'on peut aller chercher. Puis ça, c'est des conseils sur le marketing, là. Donc, dans le fond, toutes les composantes du jeu sont comme ça, là. On se croirait vraiment dans un restaurant des années 50, 60, là, à peu près. C'est vraiment beau. Moi, j'aime ça, là.
Ouais, c'est une très belle thématique.
Ouais, une petite touche de plus, là.
Donc, c'était Food Chain Magnate pour les intéressés. Deuxième jeu qu'on a acheté, Suburbia. Et c'est, dans le fond, on a parlé récemment, puisqu'on a joué la semaine dernière, et c'est la même version qu'on a acheté, c'est la même copie qu'on a acheté. C'est un des joueurs chez qui on va jouer qui l'a vendu, et on savait pas, mais on l'a acheté.
On l'a acheté.
C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, sorti en 2012, comme je mentionnais tantôt, là, et d'avoir la plus grande population possible. Je pense qu'on va passer au prochain, vu qu'on a parlé de quelques instants. Donc, si vous êtes à cette partie-là du vidéo, je vous invite à revenir en arrière si vous avez manqué le début pour voir les détails sur Suburbia. Autre jeu, Escape the Curse of the Temple. Un jeu pour 1 à 5 joueurs sorti en 2012, créé par Christian Amundsen Oddsby, publié par Queen Game. Et le but, ben, sortir du temple avant la fin du compteur de 10 minutes.
Disons que c'est un jeu très léger. C'est des parties chronométrées de 10 minutes qui se passent en temps réel avec des dés. Dans le fond, chaque joueur a 5 dés. Puis là, on tire des dés qui nous permettent d'explorer des pièces, d'aller à différents endroits. Puis dans le fond, à la fin, il faut être capable de sortir du temple. Puis c'est ça, dans le fond, je rentrerai pas dans les détails, là. C'est vraiment pas compliqué, mais disons que c'est plus un divertissement là qu'un jeu de stratégie. Là, moi, j'aime bien ça, je trouve ça le fun. Puis t'sais, si on a du temps à combler là entre deux parties d'un jeu, disons qu'on attend d'autres personnes, ben ça peut être intéressant. Puis ça peut être intéressant aussi pour les gens qui aiment moins les jeux de stratégie là. Moi, je l'ai acheté parce que c'est ça, je voulais pas le payer là au prix auquel ils le vendent dans les magasins là. C'est 60 $ dans le fond. En temps normal, je trouve que c'est un petit peu cher. Pour ce type de jeu-là, c'est sûr que les composantes sont belles, puis aussi une trame sonore qui ajoute un petit peu d'ambiance à ce jeu-là. Là. C'est vraiment le fun, mais c'est ça, c'est plus. c'est moins stratégique.
Ouais. Je le classifierais pas de léger, parce que c'est vraiment énervant. C'est vraiment de la vitesse.
C'est en temps réel,
ouais,
c'est pas vraiment.
Puis c'est ça, c'est du hasard dans le fond, fait qu'on contrôle pas le hasard. Donc en temps réel, c'est ça, ça peut nous venir stressant assez rapidement.
Ouais, c'est ça. C'est bien
Mais bon, j'aime bien aussi le jeu, puis comme ça dure 10 minutes, donc tu peux faire une deux parties consécutives, puis après ça tu changes de jeu.
fun. Ouais,
Ça
c'est ça.
détend un peu la...
Quand on est fatigué du cerveau.
Ouais, c'est ça. Si on a joué un jeu plus lourd avant, mais ça peut juste... Ah, ça ranime un peu
Ouais, c'est ça.
pour changer
Il y a
de
différentes expansions aussi qui existent là, pour ajouter des cartes malédiction, des cartes trésors. Il y en a déjà à la base dans le jeu, mais on peut acheter d'autres expansions là, pour avoir encore plus de matériel. Mais je trouve que le jeu de base là, en soi est très correct, là. Pas nécessairement besoin d'avoir tout le kit, là, parce que dans le fond, au complet, si on achète le jeu avec toutes les expansions, c'est environ 100 $. Je trouve que c'est cher payé, là, pour un jeu comme ça. Mettons, Food Chain Magnate, dont on a parlé tantôt, pour le même prix, disons qu'on a quelque chose de beaucoup plus intéressant côté stratégie, là, mais ceux qui aiment les jeux légers, ben, Escape, ça peut être une option intéressante. Il y a aussi une version zombie, là, au lieu de se sauver d'un temple, il faut se sauver d'une ville avec des zombies. On l'a pas essayé celui-là, là. Je sais pas si, y a des grosses différences, là, mais je pense que c'est pas mal le même concept.
Autre jeu qu'on a acheté. Et ça, c'est un guess qu'on pourrait dire. Expo 1906. Comme vous voyez, il était même neuf.
Toujours emballé dans le
Emballé
plastique.
encore. Même dans le bazar. Donc, c'est un jeu neuf dans les jeux usagés. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs sorti en 2015 et créé par Remo Conzadori et Nestor Mangone, publié par Gotha Games. Le but, c'est d'accumuler le plus de points de prestige et je peux pas en dire plus. Je vais pas en garder très
On
dans le
pourra en
détail encore,
parler dans un prochain épisode du podcast.
J'étais vraiment juste attiré par, en gros, le derrière de la boîte. C'est des choses qui m'arrivent, sur l'impulsion du moment. Le jeu était pas très cher. Et puis, la thématique m'intéressait. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer. On va vous en reparler dans un prochain épisode. Ensuite, D-Day Dice. Un jeu pour 1 à 4 joueurs sorti en 2012, créé par Emmanuel Acquin et publié par Valley Games Incorporé. Le but, c'est se rendre en sécurité dans le bunker avec au moins un soldat. Dans le fond, c'est un jeu de guerre sur le débarquement de Normandie. Et le but, dans le fond, c'est de traverser la plage et de se sécuriser dans le bunker. C'est un jeu de dés coopératif où, dans le fond, on a 3 dés, on a 2 dés de rouge, 2 dés bleus, 2 dés blancs. Puis il y a certaines combinaisons à faire avec ces dés-là qui vont nous donner des bonus spéciaux ou aller recruter des. Ben, pas recruter des soldats, mais des soldats qui vont se joindre à notre armée. Et on va aussi accumuler des étoiles pour acheter des spécialistes, dans le fond, qui ont des pouvoirs spéciaux qui sont valides de toute la partie jusqu'à temps qu'ils décèdent ou qu'ils se fassent tuer. Et aussi, on accumule des outils qui nous permettent d'acheter des items qui eux autres aussi nous donnent justement des habilités spéciales comme annuler l'effet d'une zone de mine, donc où est-ce qu'il y a des mines. Habituellement, il faut lancer un dé, puis le chiffre qu'on obtient, c'est le nombre de morts qu'on a. Donc c'est un jeu où il y a beaucoup de morts pour avoir tout le temps des soldats qui viennent se joindre à nous. J'ai vraiment aimé ça, c'est un jeu, je l'ai joué en solo, une première partie pour un peu le tester, puis dans le fond on avance sur la plage avec notre dé, il y a certaines zones où on peut pas rester très longtemps, les autres zones c'est jusqu'à 3 tours maximum. Je peux pas aller plus dans les détails pour l'instant, j'ai justement joué une partie, mais la première partie était vraiment intéressante à jouer. J'ai bien aimé le petit truc ici, dans le fond, qui permet de compter qu'est-ce qu'on a en notre possession avec des petites roulettes là, qui permettent de calculer qu'est-ce qu'on a. Donc j'ai bien aimé cet aspect-là dans la composante de ce jeu-là. Et bien hâte d'y rejouer, j'aime ça les jeux de guerre, c'est quand même pas très long, 45 minutes. Habituellement, les jeux de guerre, ça peut durer assez longtemps. Donc très bon jeu.
En fond, Jean-Philippe a essayé la version solo du jeu. J'étais pas là, mais j'ai bien hâte de l'essayer aussi. Ça a l'air intéressant.
Et le dernier jeu qu'on a acheté, oui, on a acheté 6 jeux dans ce magasin. Bon, hier, moi, j'y allais pour un ou deux jeux, mais bon.
On finit toujours par acheter plus qu'on pense.
Le Havre. Le Havre, un jeu pour 1 à 5 joueurs, sorti en 2008, créé par Hugh Rosenberg, un nom difficile à prononcer, mais un auteur très, très prolifique. Plusieurs jeux, donc Fields of Arn, qui est un autre jeu qu'on a en notre possession, qui est, que j'aime bien aussi, du même auteur, et Patchwork, un jeu plus léger, aussi dont on a une critique sur notre blog. Et c'est un jeu publié par Lookout Games, et le but, c'est d'amasser la plus grande fortune. Donc, on n'a pas joué encore, j'ai pas encore lu les règlements non plus. C'est un jeu qui m'intéresse depuis un certain temps. Et puis, je trouvais que le prix est intéressant pour en prendre possession au bazar.
On se l'est fait recommander aussi pour deux joueurs. Mm-hmm. Dans le fond, c'est un jeu où on est dans un port, puis il y a différentes marchandises qu'on peut acheter et vendre. D'habitude, c'est le genre de jeu qu'on aime. Mm-hmm. Donc, on a bien hâte de l'essayer.
Ouais. Puis, c'est un jeu qui est très bien classé aussi là, sur Board Game Geek, qui est dans le top 7. Je me souviens plus exactement de sa position. Mais très bien classé. Donc, c'est ce qui fait le tour des jeux qu'on a achetés. Ce qui fait le tour du premier épisode. Que j'espère vous avez eu beaucoup de plaisir à écouter et que vous avez appris sur les jeux. Donc, si vous avez des commentaires sur le premier épisode, on est là pour apprendre aussi, pour répondre un peu à vos attentes. Je vous invite à laisser des commentaires soit sur la vidéo ou à nous écrire, à contacter nous sur notre site. Donc, vous pouvez nous écrire personnellement en privé. Et aussi aller sur notre site web sur www.boardgamequebec.com et vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram où je mets des photos à l'occasion là, des jeux qu'on joue. Et sur Instagram, dans le fond, c'est BoardGameQC et non BoardGameQuebec. Petite différence. Et aussi sur Facebook à BoardGameQuebec. Donc, c'est les options de nous rejoindre. Et donc, je vous remercie de nous avoir écoutés. Un très bel épisode d'ouverture. Donc, on se dit à la prochaine fois. Bye bye.
Merci.